La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.
Chères auditrices, chers auditeurs, permettez-moi de vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année 2026. J'utilise l'adjectif le meilleur parce qu'il est vrai que le début de cette année a été difficile avec des tragédies et j'espère dans ces conditions que vous saurez faire face au mieux aux difficultés que vous pouvez ressentir. Il y a quelques semaines déjà, on a consacré une émission au microbiote intestinal, constitué d'un ensemble qui, je vous le rappelle, associe des bactéries, des virus, des levures, le tout étant souvent assimilé sous le terme de flore intestinale. C'est le mot peut-être que vous connaissez. Et ce microbiote est indispensable à notre vie, à la fois parce qu'il a un rôle protecteur vis-à-vis des agents pathogènes, mais aussi il a un rôle sur la fabrication et l'élaboration de certaines protéines ou certaines vitamines que notre organisme est incapable de produire. Et à cette occasion, nous avions évoqué la possibilité d'une relation entre le microbiote et le système nerveux. Mais le temps étant compté, nous n'avons pas pu développer cette émission et on a donc consacré une émission spéciale à ce sujet-là. D'autant plus qu'il semble maintenant qu'on puisse dire qu'il y a une liaison entre le microbiote et les addictions, ce qui donne à cette question tout son relief compte tenu du problème social majeur représenté par ces addictions. Alors, il se trouve que j'ai la chance d'avoir eu la collaboration du professeur Patrick Hillon, qui était l'auteur d'un livre intitulé « Le microbiote, un ami qui vous protège ». D'autre part, le professeur Benoît Trojac, qui est psychiatre au CHU. Et ces deux personnes ont bien voulu m'accorder du temps pour traiter de cette émission. Je les en remercie très vivement. Et peut-être que je pourrais leur demander qu'ils se présentent un peu mieux que je ne l'ai fait. Alors peut-être... Patrick ?
Oui, je suis retraité, heureux, avec beaucoup de temps.
Nul n'est parfait.
J'étais professeur de médecine, oui, en hépato-gastro-entérologie. Et je suis retraité depuis 10 ans maintenant.
Très bien. Et Benoît ?
Donc, Benoît Trojac, moi je suis psychiatre addictologue. J'ai la responsabilité du service d'addictologie au CHU de Dijon. Et effectivement, dans le service, on développe différents axes cliniques, mais aussi de recherche. Et pourquoi pas s'intéresser à cette approche qui est émergente, qui est nouvelle, en tout cas dans le cadre des thérapeutiques à venir.
Très bien. Donc, merci encore à vous de m'avoir fait cette joie de vous accueillir et avec les compétences que nos auditrices et nos auditeurs vont pouvoir constater. On va diviser cette émission avec une première partie qui sera peut-être plus consacrée à une revue générale sur les liens qu'il y a entre l'intestin et le cerveau, à telle enseigne qu'on a pu même dire qu'il y avait au niveau du microbiote un deuxième cerveau. Alors, à vrai dire, quand on regarde un peu l'historique, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait récent, dans la mesure où dès le 19e siècle, il y a eu déjà une observation clinique tout à fait passionnante d'un trappeur canadien qui, accidentellement, avait eu une perforation intestinale par balle et qui avait été soigné par un médecin militaire qui s'appelait William Beaumont et qui, malheureusement, a été devant une fistule qui lui a, quelque part, permis d'étudier les relations qu'il y avait entre les troubles digestifs et l'état émotionnel. Donc c'était le point de départ, peut-être, de la liaison entre microbiote et émotion. Puis il y a quelques années, l'INSERM s'est posé la question du deuxième cerveau. Est-ce que le microbiote représente un deuxième cerveau capable d'intervenir sur notre santé physique ou mentale? Et puis, plus récemment, l'intervention d'un nerf particulier, qu'on appelle le nerf pneumogastrique ou encore le nerf dit vague, qui apparaît comme étant un lien matériel entre l'intestin et le cerveau, au point qu'on parle maintenant d'un axe intestin-cerveau. Donc, avec tout cet ensemble-là, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, je vais me tourner peut-être d'abord vers le professeur Hillon. Est-ce que vraiment le microbiote peut être considéré comme un deuxième cerveau, soit parce qu'il a une constitution avec un nombre de neurones considérable, soit parce qu'il a des neuromédiateurs qui sont les mêmes qu'au niveau des cerveaux, mais est-ce que cette expression microbiote deuxième cerveau est à retenir.
Non, parce que ce n'est pas le microbiote qui est le deuxième cerveau, ce sont des structures neurologiques, nerveuses, qui siègent dans la paroi de l'intestin, et le microbiote est en contact étroit avec ces structures nerveuses. Ce qui est intéressant, on a longtemps pensé que ces structures nerveuses étaient des structures destinées à coordonner les contractions digestives, à assurer les sécrétions digestives, jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'en fait, la structure n'était pas celle de câble nerveux de transmission d'informations, mais une véritable structure de neurones, de multiples petits amas de neurones connectés entre eux. Et c'est pour ça qu'on parle de cerveau digestif,
avec
intestinal.
Un grand nombre de neurones, plusieurs millions peut-être.
Oui, oui. Je ne sais plus combien c'est, 500 000. Je crois que c'est équivalent au cerveau d'un singe macaque rhésus qui peut vivre en bande, organiser des raptes dans les différents endroits qui l'entourent. C'est très élaboré déjà, la capacité de ces structures neurologiques intestinales. Et ce sont probablement, c'est un de mes amis qui est agronome, qui m'a expliqué que c'était peut-être le reliquat du ver dont on descend depuis quand même quelques millions d'années. Un ver, c'est un tube digestif entouré de cellules neuronales. Et c'est peut-être ce qu'on a gardé de nos ancêtres très lointains.
Alors, le lien qu'il peut y avoir entre cette structure périphérique, qui est l'intestin, et le cerveau, comment ce lien est assuré? Par l'intermédiaire de produits ou par l'intermédiaire d'un nerf? Parce qu'on parle maintenant d'un lien matériel qui serait le nerf vague. Oui. On peut aussi se poser la question, parce que je pense que les auditrices se posent la question, qu'est-ce que c'est de ce nerf? Un nerf qu'on appelle vague, qu'est-ce que ça veut dire?
Il a beaucoup de dénominations possibles. On l'appelait le nerf vague parce que c'est le plus grand nerf qui existe et qu'il innerve tout depuis les oreilles jusqu'au foie, jusqu'à la rate, etc. Il est extrêmement diffus.
Et l'intestin.
Et l'intestin, oui. Et il est extrêmement diffus, surtout l'estomac d'ailleurs. Et donc, c'est ce qu'il a fait appeler le nerf vague. On ne comprenait pas bien.
Et s'il y a un lien, alors, s'il sert de lien, quelles sont les structures qui permettent d'assurer ce lien à travers un nerf? Est-ce que c'est des produits chimiques? Est-ce que c'est des influx?
Sont des neurotransmetteurs. Là,
des neurotransmetteurs. Ouais. Et parmi ces neurotransmetteurs, est-ce que la sérotonine intervient?
Ah ben je pense, je me tourne vers Benoît dans le nerf vague. Je pense que
sérotonine, qu'on avait qualifiée d'hormone du bonheur. Alors, oui. On peut imaginer que si effectivement oui. Il y a un lien microbiote-émotion, on peut aussi dériver un peu et penser qu'il y a un lien possible oui. Avec l'hormone du bonheur.
Le nerf vague est lié aux structures du plaisir dans le cerveau. Je ne sais plus comment on appelle cette hypothalamique.
Le centre de la récompense.
Le centre de la récompense, c'est surtout une voie neurologique qui relie le tronc cérébral à des structures limbiques beaucoup plus profondes. Mmh. Effectivement, ça, c'est ce qui génère le plaisir, le désir. Mmh. Donc, les liens, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette connectivité cérébrale et même extra-cérébrale, c'est extrêmement complexe. Mmh. Mais il y a énormément de connexions diverses. Enfin, c'est des réseaux, en fait. Mmh. Ce n'est pas une connexion directe. Des réseaux neuronaux qui font que tout est plus ou moins relié entre eux.
Est-ce que dans ces conditions, on peut imaginer que la liaison entre les deux est bidirectionnelle? Autrement dit, que l'intestin agit sur le cerveau et inversement?
Probablement, parce qu'il y a quand même toute la commande du tube digestif. Et puis en retour, il y a les sécrétions par les bactéries de neurotransmetteurs, il y a les informations collectées donc dans l'intestin qui vont remonter dans ce circuit des émotions cérébrales.
Donc on peut imaginer alors qu'il y a un certain nombre de facteurs liés à l'alimentation traités par l'intestin qui vont avoir une répercussion sur l'activité cérébrale. Ne serait-ce que le plaisir de manger, par exemple, ou bien encore avoir la possibilité d'entraîner des modifications de l'activité cérébrale liées éventuellement à une mauvaise alimentation. Ça peut être aussi une façon de voir les choses.
Il y a des addictions à l'alimentation et à la mauvaise alimentation. Et il est très probable que ces addictions favorisent des troubles émotionnels, des troubles même de l'intelligence. Il y a un impact très très négatif sur les émotions et les performances de ces alimentations transformées et très
D'accord,
riches.
Donc il y a bien, si on résume, un axe intestin-cerveau bidirectionnel, le nerf vague étant une des possibilités de communication. Et on voit alors tout de suite dans ces conditions, puisque le terme d'addiction est celui qui nous intéresse aujourd'hui, je me tourne alors vers le psychiatre en lui demandant est-ce qu'il peut expliquer davantage qu'est-ce qu'une addiction et à quel type d'addiction on peut avoir affaire.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a vraiment un consensus scientifique autour de ce que sont les addictions. Et la première définition qu'on peut donner, c'est le fait que c'est une maladie cérébrale, chronique, hein, de par son caractère récidivant. Et aujourd'hui, on connaît très bien les perturbations cérébrales qui vont amener un sujet, effectivement, à perdre le contrôle de ses consommations par rapport à tel ou tel produit, et aussi les conséquences. Mais vraiment, on est tous d'accord pour penser qu'il s'agit avant tout d'une maladie cérébrale. Et qui explique d'ailleurs en grande partie les...
Et qu'est-ce qu'on peut trouver alors comme addiction? Addiction par rapport à quoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des addictions par rapport à des tas de choses. Ça peut être alimentaire, ça peut être au jeu.
Alors tout à fait.
Par exemple.
Aujourd'hui, on les catégorise de deux façons. Il y a les addictions avec substance. Alors classiquement, on va retrouver les substances habituelles. Hein, tabac, alcool, les produits opiacés, les produits stimulants comme la cocaïne, le crack, etc. Donc les addictions avec substance. Et puis de l'autre côté, il y a les addictions sans substance, qu'on appelle aussi addictions comportementales. Et aujourd'hui, on ne reconnaît qu'une seule authentique addiction comportementale, c'est-à-dire sans substance comme une authentique addiction, c'est le jeu d'argent pathologique. Ça ne veut pas dire pour autant que les autres comportements sans substance, comme par exemple le sexe, les jeux vidéo, les achats, ne sont pas d'authentique addiction, mais on manque encore de données scientifiques pour s'assurer, pour attester que ces comportements sans substance sont d'authentique addiction. Donc il y a des recherches en cours, mais il n'est pas exclu que dans les années à venir, on élargisse effectivement le panel des addictions comportementales au-delà du simple jeu d'argent pathologique.
Donc en résumé, addiction plutôt par rapport à des produits ou addiction plutôt par rapport à des comportements sans produits.
Mais aujourd'hui, les addictions avec substance, on estime que dans les addictions avec substance, que le comportement et les mécanismes sont identiques à celui du jeu d'argent pathologique. Ça serait la même pathologie d'une certaine façon, la même pathologie cérébrale, qui se manifeste différemment.
Alors si on creuse un peu les choses, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'addiction est une sorte de viciation du système de récompense? Autrement dit, on a un désir, ce désir on le satisfait. Une fois qu'il est satisfait, on en éprouve du plaisir. Et alors, secondairement, on va rechercher le même plaisir en essayant de le provoquer de la même façon. Et progressivement, on devient, entre guillemets, accro à la substance, éventuellement au comportement. Est-ce qu'on pourrait envisager les choses comme ça? Ce qui voudrait dire alors qu'à la fin du compte, on pourrait avoir une addiction, non plus avec plaisir, mais une addiction où cette fois, au contraire, on serait en face d'une contrainte. Et qu'on n'éprouverait plus de plaisir, on n'éprouverait plus de récompense du fait de l'action addictive. Est-ce que c'est faux de voir les choses comme ça?
Non, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on a tous en nous un système de récompense, qui est une voie neurobiologique qui est bien identifiée par du tronc cérébral, et ça se projette dans des structures profondes, qu'on appelle limbique du cerveau. Et c'est une structure qui est tout à fait naturelle, et qui a pour objectif de maintenir notre espèce, l'être humain, en vie. Et cette voie neurobiologique a pour objectif de nous permettre de nous alimenter, de nous hydrater et de nous reproduire. C'est ce qui fait que l'espèce humaine persiste dans le temps. Le problème, c'est que les substances psychoactives à risque d'addiction vont venir emprunter cette voie qui rend les comportements humains automatiques et nécessaires à la survie. Et d'une certaine façon, on va devenir en mode un peu automatique par rapport à la prise de ces produits. Et donc c'est quelque chose qui est naturel et qui est vicié, qui est court-circuité par la prise de substances à risque d'addiction.
Alors si on prend l'exemple de l'addiction à l'alcool, on voit très bien le résultat de cette addiction qui conduit à ce qu'il y ait de plus en plus de consommation d'alcool et même à la fin, à la limite, on n'a plus de satisfaction. Mais à l'inverse, l'alcool va avoir des effets nocifs sur l'intestin par son action directe. Et là, je me tourne alors vers les pathogastroentérologues. Est-ce que, dans ces conditions, c'est bien l'aspect bidirectionnel qu'on envisageait tout à l'heure ? C'est-à-dire qu'on va avoir un effet délétère du produit auquel on est addictif sur le microbiote.
Oui.
Donc avec une altération, finalement, des deux côtés de la chaîne. À la fois une altération digestive, une altération cérébrale.
Oui, c'est... Pour l'alcool, c'est le domaine qui a été le plus étudié sous cet aspect. Effectivement, la consommation d'alcool va avoir des impacts psychiques et neurologiques, mais va avoir aussi un impact direct sur la santé de l'intestin, et en particulier va favoriser la destruction de l'imperméabilité de l'intestin qui devient poreux, et qui va laisser passer des substances qu'on appelle endotoxines, qui vont avoir un impact sur le système nerveux sous forme d'une tendance dépressive. Ça donne une inflammation, ce passage des endotoxines, avec une dépression, et qui favorise les addictions. Donc on voit qu'on risque, par l'atteinte intestinale, de rentrer dans un cercle vicieux, au point que traiter l'addiction seulement sous un aspect va être insuffisant, parce qu'on ne peut pas faire arrêter de boire quelqu'un qui est dépressif et qui a ses anomalies intestinales.
Et donc, je crois qu'il y a de plus peut-être un comportement lié à une situation sociale ou une situation financière particulière qui fait que le système devient effectivement un cercle vicieux.
Voilà. Et donc, je crois que ce qui pourrait changer dans un proche avenir, c'est la prise en compte de ces rôles différents de la société, du stress, du microbiote, dans la prise en charge d'un malade atteint d'addiction.
Est-ce qu'en pratique, alors, cette question de l'importance du microbiote au niveau de notre santé, est-ce que c'est bien pris en compte ou est-ce que c'est insuffisamment médiatisé ?
Ben, je pense que c'est médiatisé, mais c'est... Les travaux n'avancent pas très très vite, il n'y a que quelques équipes qui font de la transplantation de microbiote. Je pense qu'il faut, arriver à stimuler un peu cette recherche, et en particulier
la
recherche
question
clinique.
De la transplantation du microbiote me conduit à poser la question, dans les conditions actuelles, qu'est-ce qu'on peut proposer de façon simple pour rompre le cercle vicieux ?
Donc, on a un intestin qui est malade parce que l'alcool a provoqué ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire la pullulation de bactéries pathogènes, enfin, des choses qui sont anormales dans le microbiote. Ces dysbioses, pour les traiter, on a les probiotiques, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il manque une bactérie ou quelques bactéries, on va les amener. Ce sont des bactéries qui pourraient manquer. Des prébiotiques qui sont le terreau qui va permettre de faire pousser ces bactéries.
Donc sous forme de médicaments, sous forme de
compléments alimentaires. Oui, sous forme de gélules, voilà. Des gélules qui sont libérées que dans l'intestin, pas détruites dans l'estomac. Donc on apporte la bactérie qui paraît manquer. Mais le problème actuel, un des problèmes actuels et qui est fondamental, c'est quand on étudie le microbiote, on voit qu'il y a des bactéries qui manquent. Mais est-ce que... Si elles manquent, c'est peut-être parce qu'elles ne sont plus nourries par d'autres bactéries en amont. Et si on ne corrige pas l'absence de la bactérie d'amont, on ne va pas pouvoir régler le problème définitivement.
Il y a un problème qui s'ajoute à celui-là, c'est que le microbiote, si je me souviens bien ce que tu nous as rappelé la dernière fois, est très personnalisé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de normes quant à un microbiote, et donc pas de possibilité de compenser une déficience dans un domaine ou dans un autre. Et est-ce que c'est un élément supplémentaire de difficulté ?
Oui, un microbiote sain, en gros, c'est caractérisé par un microbiote extrêmement dense, de multiples bactéries différentes. Et surtout, un point très important, c'est que chaque bactérie, chaque famille de bactéries qui est chargée de, je ne sais pas, synthèse de vitamines ou quoi, est doublée par deux ou trois autres familles qui ont le même pouvoir de synthèse. Parce que s'il y en a une qui est détruite, il y aura une suppléance. Et c'est pour ça que plus le microbiote est dense, varié, et moins il est fragile, moins il est exposé. Alors dans nos civilisations qui utilisent les antibiotiques largement pour se soigner, mais aussi pour faire de l'élevage intensif, je pense qu'on est en train de corrompre un peu la santé. On a démontré, par exemple, chez des jeunes de 15 ans, que le microbiote est beaucoup plus sain en Afrique, au Burkina Faso, qu'à Florence, en Italie, à l'âge de 15 ans. Parce qu'on n'est plus en contact, comme dans les campagnes, avec de nombreux animaux. On a une hygiène qui accélère, on a des antibiotiques qui se multiplient, et finalement, les microbiotes, il y a plus de pathogènes chez les jeunes Florentins que chez les jeunes Burkinabés.
Alors, merci de cette réflexion, parce que ça me permet cette fois de me tourner vers le psychiatre en lui disant, mais on voit aujourd'hui une importance des dépressions qui paraît assez fréquemment rencontrée dans la population française en particulier. Est-ce qu'on pourrait alors voir une incidence entre une anomalie du microbiote intestinal et la survenue de la dépression?
Alors, bon, c'est une question complexe. Il faut savoir que les troubles dépressifs recouvrent un large nombre de maladies différentes. On parle des maladies dépressives, il n'y a pas qu'une seule maladie dépressive. Donc il faut être très prudent à ne pas résumer à une seule dépression. Il y a des terrains de vulnérabilité, des sujets particuliers, l'histoire personnelle. Donc il y a plein de maladies dépressives. Donc je pense qu'il faut être prudent. On n'a quand même pas beaucoup de données, à ma connaissance, sur microbiote et dépression. On a peut-être un peu plus de données sur en ce qui concerne les addictions. Je crois que ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'avant, on était plutôt passif. C'est-à-dire que qu'il y ait une anomalie au niveau digestif, ça pouvait se comprendre chez les patients dépressifs ou souffrant d'addiction, dans la mesure où ce sont des sujets qui, finalement, se nourrissent mal en raison de leurs troubles. Et on aurait pu penser que, finalement, c'était normal d'avoir un fonctionnement intestinal réduit du fait de la malnutrition, de l'isolement, peut-être de la prise de produits. Je pense à un patient effectivement qui consomme beaucoup d'alcool. Des fois, il ne consomme que de l'alcool et rien d'autre. Ça devient électif. Donc, on était peut-être passif dans la mesure en disant c'est normal qu'il y ait des perturbations, sans qu'on envisage le rôle causal, c'est-à-dire voir si le microbiote ou les perturbations du microbiote peuvent contribuer, favoriser ou accélérer la maladie addictive ou dépressive. Et puis, ce qui est vraiment nouveau, je pense, c'est des pistes thérapeutiques. C'est-à-dire que peut-être qu'en normalisant un microbiote perturbé, on peut améliorer l'état mental ou addictologique du sujet. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que tant pour les maladies dépressives que pour les addictions, on a très peu de traitements. Très très peu de traitements. Et voir une nouvelle voie thérapeutique potentielle, ça c'est quelque chose qui est fabuleux.
Est-ce que cette nouvelle approche est seulement à son début, ou est-ce que ça commence à se développer et on prend en compte dans tous ces types différents de dépression, certains types qui sont plus volontiers à relier avec, par exemple, des troubles alimentaires ou des troubles de comportement liés à des événements sociaux particuliers? Est-ce que l'aspect microbiotique est de plus en plus présent dans le domaine de l'analyse d'une dépression au niveau psychiatrique ou pas?
Ça reste quelque chose d'émergent à ma connaissance, hein, au tout début, hein, donc prudence, effectivement.
Donc ça, c'est, on est sur les premières études. C'est très nouveau, alors.
Ouais, c'est vraiment nouveau.
C'est en cours de développement. Alors, je pense, Patrick Hillon, que là, tu as trouvé un document récent sur lequel il y a quand même des éléments assez intéressants.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous dire ça?
Même déjà ancien, puisque Metchnikov, au 19e siècle, avait décrit des maladies qui étaient liées aux microbes dans l'intestin. Lui, il pensait à l'époque que ces microbes fabriquaient des toxines qui étaient absorbées, et ils avaient même, l'ensemble des gens qui travaillaient là-dessus, lui avait fait une dépression sévère à la mort de sa femme, il avait eu des troubles digestifs en même temps, et il pensait donc que ces endotoxines provoquaient à la fois les dépressions et aussi les coronaropathies, les artériopathies, ce qu'on retrouve exactement là. Parce que qu'est-ce qui favorise la dépression quand elle est liée à un problème du microbiote? C'est l'inflammation. C'est l'inflammation qui provoque la dépression. C'est-à-dire quand la paroi intestinale est altérée, quand elle est poreuse, il va se créer une inflammation à l'intérieur de l'organisme. Et cette inflammation, elle va favoriser certaines dépressions, et elle va favoriser aussi l'athérome coronarien, l'athérome vasculaire. Donc c'est vraiment une source, cette atteinte intestinale par une dysbiose sévère, c'est vraiment une source de troubles psychiques assez importants. Et si on reprend les expérimentations, on en avait parlé la première fois, par exemple, si on prend un malade atteint de cirrhose alcoolique, on s'aperçoit que par rapport à quelqu'un qui boit la même chose et qu'il n'y a pas de cirrhose, la différence, c'est la dysbiose microscopique avec la translocation bactérienne, c'est-à-dire le passage de bactéries à l'intérieur de l'organisme ou d'extraits de bactéries. Donc c'est ce qui différencie ceux qui boivent sans avoir de lésion du foie et ceux qui boivent en ayant une cirrhose. Et si vous transplantez à des souris que vous allez exposer à l'alcool les matières fécales, le microbiote de ces deux groupes de malades, dans le groupe de souris qui recevront le microbiote des malades atteints de cirrhose, ces souris vont développer des lésions inflammatoires de l'intestin et une dépression. Les comportements dépressifs.
Je pense que nos auditrices, nos auditeurs vont sûrement être très intéressés par cette approche qui va changer la face des choses. Mais est-ce que l'expérimentation animale peut être applicable à l'homme? Dans quelles conditions? Et d'autre part, est-ce qu'il y a des conseils d'ores et déjà qu'on peut donner à un certain nombre de personnes qui ont une tendance dépressive pour voir si du côté du microbiote, il n'y a pas quelque chose à faire?
Alors, je pense que les conseils seraient nutritionnels. C'est le régime méditerranéen. C'est vraiment... on a bien démontré que ça améliorait... Dans l'Alzheimer, ça réduisait la vitesse de perte de mémoire. Chez des personnes, ce n'est pas un essai randomisé, mais on avait conseillé à tous les personnes qui avaient fait un accident vasculaire cérébral et qui avaient une démence de type Alzheimer, eh bien, les personnes qui suivaient ce régime méditerranéen avaient 20 ou 30% de moins de risque de récidive d'accident vasculaire cérébral et avaient une réduction de 40% de la vitesse de perte.
Est-ce qu'on peut rappeler les caractéristiques de ce régime méditerranéen?
Bon, c'est beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. je crois qu'on peut le retrouver sur les recommandations de l'Agence française pour la nutrition, je ne sais plus son nom, mais on peut retrouver très facilement toutes les caractéristiques du régime méditerranéen. Ouais. C'est surtout légumineuses, fruits et légumes.
Alors, il me vient une idée comme ça, en t'écoutant, l'expérimentation animale sur la souris. Comment on peut avoir une idée de la dépression chez la souris?
Sur les comportements. Sur les comportements, c'est-à-dire l'anhédonie, le retrait, se retirer du groupe, la solitude.
Ouais. On a des modèles animaliers de souris dépressives.
Très bien. Est-ce qu'on pourrait essayer d'approfondir un petit peu ça? Parce que je pense que ça pose question.
Oui, l'un des modèles plus classiques, c'est qu'effectivement, ce sont des souris que l'on met en situation de nage. Et les souris dépressives, du coup, coulent plus rapidement que les autres.
Ah oui, elles se laissent couler.
C'est des souris qui finalement lâchent prise et finalement se laissent couler.
Elles ne s'adaptent pas au stress.
Donc, on utilise effectivement le temps de nage comme un marqueur de bonne santé mentale. Et lorsque la souris coule, elle est dépressive. Donc, on utilise effectivement... Alors, c'est un des modèles. Il y a plusieurs modèles animaliers. Mais la nage forcée, en tout cas, on appelle ça le test de nage forcée chez les souris, est un modèle de dépression chez la souris.
Mais c'est important de le préciser parce que je pense que beaucoup d'auditrices, d'auditeurs se demandent bien comment on peut faire pour avoir des souris dépressives. C'est quelque chose qui ne doit pas leur parler immédiatement, alors qu'en effet, c'est quelque chose de tout à fait rationnel qu'on peut exploiter.
Et tout à fait, très simplement, donc, lorsqu'on teste une thérapeutique antidépressive, on l'administre à différentes souris. Un nouvel antidépresseur, un faux antidépresseur, et on regarde si, avec le nouvel antidépresseur, les souris nagent plus longtemps, ce qui permettrait d'attester d'une efficacité antidépressive.
Alors, on a vu que le nerf vague était un support matériel entre l'intestin et le cerveau. Est-ce qu'il y a eu des essais qui ont été faits, peut-être chez la souris, mais peut-être aussi éventuellement chez l'homme, je ne sais pas, de modification de l'activité du nerf vague pour apporter un rééquilibrage dans cet axe intestin-cerveau.
Pas à ma connaissance, mais le nerf n'est pas responsable. Le nerf, il transmet des informations qu'il reçoit du microbiote. Donc si le microbiote est pathologique, il va transmettre des informations qui peuvent avoir des effets délétères, mais ce n'est pas lui qui est en cause, c'est le microbiote.
Oui, mais il n'y a pas eu d'essais expérimentaux faits, par exemple, chez l'animal, où on coupe le nerf pneumogastrique et où on voit si la souris devient moins dépressive.
Non, mais je peux même répondre que ce ne serait pas le cas, parce que probablement, ce qui induit la dépression, c'est l'inflammation. Et l'inflammation, il faut pour cela qu'il y ait cet intestin perméable qui laisse passer des endotoxines. Le nerf vague, il ne va pas provoquer, même si on l'enlève, l'inflammation sera la même.
C'est un conduit.
C'est un vecteur. Mais c'est l'inflammation qui va, dans le cadre des relations microbiote-dépression, c'est l'inflammation qui est la cause.
Alors, tout à l'heure, tu as fait allusion à la maladie d'Alzheimer. C'est bien sûr pas notre sujet concernant les adductions, mais de façon plus générale, on voit en effet un certain nombre de publications qui paraissent sur le lien entre microbiote et maladies neurodégénératives, notamment Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Et est-ce que c'est une vue de l'esprit, ça, ou est-ce que tu en penses? Tu as évoqué tout à l'heure l'Alzheimer.
Oui, non, je pense que l'Alzheimer, c'est de plus en plus une maladie infectieuse. Donc, c'est comme ça qu'elle apparaît dans la physiopathologie, c'est-à-dire que les anomalies...
Le psychologue hoche la tête. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser.
Il y a des essais de probiotiques dans l'Alzheimer, mais en dehors des probiotiques, il y a le régime qui est capable d'influencer, donc ça veut dire l'amélioration du microbiote est capable d'influencer la vitesse de perte de mémoire. Donc, il y a probablement des facteurs environnementaux qui jouent et qui peuvent avoir un rapport avec le microbiote, mais c'est encore très, très peu exploré.
Très bien. Donc, on en arrive alors à la fin de notre émission. Et il y a un élément qui serait peut-être intéressant de développer, c'est la mise en pratique d'un certain nombre de conseils qu'on pourrait donner pour faire en sorte de protéger le microbiote. Alors, on a vu l'alimentation avec le régime méditerranéen. Il y en a vraisemblablement d'autres, peut-être, je ne sais pas, à travers l'activité physique, à travers l'apprentissage à la gestion du stress. Enfin, je ne sais pas, le psychiatre que tu es, Benoît, pourrait nous donner peut-être des informations plus précises là-dessus. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait conclure sur des conseils pratiques qu'on pourrait donner aux auditrices, aux auditeurs, pour dire, écoutez, votre microbiote, c'est vraiment un ami qui vous protège. Et là, Patrick, tu ne pourras pas dire le contraire, parce que ton livre s'appelle comme ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Si vous voulez protéger cet ami qui lui-même vous protège, comment faire? Quelles sont les mesures pratiques, commodes, ou, y compris sur le plan du comportement? Peut-être que Benoît, le psychiatre, a des conseils à donner en ce qui concerne la gestion du stress, parce que ça ne va pas être si facile que ça à faire. Est-ce que vous avez des choses à nous dire?
Question compliquée, mais moi, tel que je le vois, parce qu'on parle souvent de stress, le stress est souvent quelque chose qu'on le ressent. Et quand on le ressent, on peut essayer d'y remédier. Effectivement, on est stressé, on peut avoir recours à des traitements anxiolytiques pour baisser l'anxiété ou avoir recours à des psychothérapies. Le stress ressenti, le stress psychique, on arrive à en parler. Ce qui est un petit peu nouveau, je trouve, dans le microbiote, c'est le stress biologique. Et c'est un stress qu'on ne perçoit pas forcément. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'en nous, il peut y avoir un stress biologique provoqué par ces dysbioses, ces anomalies, effectivement, du microbiote, et qui ne sont pas forcément perçus. Et c'est ce dont on doit avoir conscience.
Donc, le diagnostic clinique est très difficile, alors ?
Comment ?
Le diagnostic clinique doit être très difficile dans ces conditions.
Ben, je pense qu'on doit aussi se dire qu'il y a peut-être du stress biologique en nous qu'on ne ressent pas forcément et que l'on doit considérer, et sur lequel on doit être prudent et mettre en place
Et comment on peut faire pour le prendre en considération ?
Ah ben, ça c'est...
On peut... Déjà, ce qui crée l'inflammation, c'est, on l'a dit, le passage d'endotoxines dans le sang. Et on peut doser. Nous, on a fait un travail sur le cancer du foie dans ce domaine, où on a dosé l'endotoxémie chez les personnes. Ça veut dire qu'il y a un passage et une inflammation qui est liée à cette lésion de la paroi intestinale. Il y a des choses quand même expérimentalement, chez le rat par exemple, quand on sépare le petit rat qui vient de naître de sa mère, on crée un stress lorsque ça dépasse 3 heures par jour de séparation, il y a un stress qui s'installe. Et à l'âge adulte, si on ne fait rien d'autre, l'animal sera dépressif, sensible aux addictions, de façon chronique et définitive. Et si on intervient par des probiotiques dans les 12 premières semaines, on arrive à corriger les conséquences de ce stress néonatal complètement. Et on s'est posé la question chez l'homme. Chez l'homme, il y a une pathologie qui est l'intestin irritable. Il y a beaucoup de gens qui sont gênés par leur intestin, mais dans les formes majeures, sont des formes associées à une dépression, associées à des addictions, souvent une tendance à l'addiction. Et chez ces gens-là, on retrouve dans plus de 40 à 50% des abus sexuels, par exemple, dans l'enfance. Mais il y a aussi un autre domaine, moi, je pense qu'il faudrait explorer, c'est l'adoption. Parce que dans l'adoption, on va séparer l'enfant de sa mère biologique, et je pense que les liens, ils commencent avant même la naissance, et on ne s'occupe pas du reste ensuite. Et moi, je pense qu'il y a des dysbioses qui peuvent être induites comme ça, et si on les traitait tout de suite, on pourrait éviter certains problèmes, je pense, qui sont liés à l'adoption et à la séparation de la mère.
Très intéressant. Que pensent les psychiatres sur cet aspect ?
Alors, pourquoi pas, effectivement, mais ça reste encore une fois des données, je veux dire, nouvelles, qui méritent effectivement d'être confortées par des études. Par contre, ça nourrit beaucoup d'espoir.
Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire.
Oh, je pense qu'il y a encore des travaux.
Donc, si on résume les conseils à donner, alors on voit bien, conseils à donner plutôt manger le fait à la maison, plutôt avoir une activité physique régulière, avoir une hygiène de vie. Mais si malheureusement l'addiction est intervenue, et là c'est le psychiatre qui peut nous répondre, qu'est-ce qu'on fait ? Comment faire pour casser ce cercle vicieux qui conduit à ce qu'on ait une addiction qui ne soit plus jamais le résultat, n'est plus comme résultat la satisfaction, mais au contraire la contrainte et la difficulté à vivre avec une addiction. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Bah, du coup, là, il faut passer par du soin, parce que si on revient à la définition d'une addiction, c'est vraiment une perte de contrôle. Hein. Le patient est en mode automatique par rapport à la prise de substance. Il ne choisit pas, il le subit. C'est ce qui est l'objet de souffrance. Donc là, il faut vraiment une prise en charge, effectivement, associant certains traitements médicamenteux avec certaines approches psychothérapiques, motivationnelles, cognitives ou autres. Donc voilà, une addiction, c'est une maladie complexe. Ça, c'est la maladie de la récidive. Donc il faut souvent une approche pluridisciplinaire, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul facteur causal, il n'y a pas qu'une cause dans une addiction, il y a plein de causes. Hein. Et donc, il faut envisager effectivement la nutrition, l'environnement, la famille. Il y a toutes les dimensions dont doivent être envisagées pour éviter effectivement la récidive et la rechute.
Pour avoir une idée générale, il y a un pourcentage qu'on pourrait connaître en gros sur le résultat du traitement d'une addiction.
Encore une fois, c'est très variable entre la tabacologie, à la dépendance aux opiacés. Des fois,
si on prend le tabac, par exemple, on a des statistiques disponibles pour savoir le traitement de l'addiction est efficace.
Alors, en tabacologie, on a bien progressé. Il faut savoir que les résultats sont modestes. Par contre, ça concerne énormément de sujets. Des fois, en médecine, on a...
Alors, résultat modeste, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que ça ne marche pas forcément au premier coup.
D'accord.
On peut effectivement, en parlant du tabac... réussir un sevrage tabagique et puis rechuter au bout de 3 mois, 6 mois,
il ne faut pas hésiter à repartir.
Tout à fait. Et on a pour habitude, nous, en addictologie, de dire qu'on est en rémission, c'est-à-dire qu'on se sort de la maladie seulement au bout de 12 mois. Donc déjà, ça montre que quand bien même on arrête de prendre un produit, il faut attendre d'aller d'au moins 12 mois avant de se dire on a passé le cap. Et 12 mois, c'est long. C'est une année sans reprise du produit.
Et
souvent, nos patients, effectivement, se donnent un résultat un peu hâtif. Hein. Au bout de 3 semaines, il n'y a plus de consommation, j'ai réussi, je m'en suis sorti. Et malheureusement, il y a souvent des rechutes hein, par un excès de confiance ou par ce craving, hein, ce besoin pressant de consommer qui réapparaît et qui est quelque chose d'extrêmement violent. Donc voilà, le traitement d'une maladie addictologique est long et nécessite bien souvent une approche pluridisciplinaire.
Et parmi l'ensemble des personnes qui sont soumises à ces addictions, on connaît un pourcentage de gens qui ne cherchent pas volontairement à se traiter de cette addiction, autrement dit, qui reste addict et qui ne consulte jamais.
Alors, c'est un parcours. Donc, effectivement, les patients évoluent avec le temps et avec leurs échecs. Hein. Chaque échec nourrit effectivement peut-être une volonté plus forte de se soigner. Chaque sujet est différent. On peut pas un peu difficilement résumer à un seul parcours. Ils sont tous différents, nos patients. C'est quelque chose qui est vraiment singulier et individuel, mais qui prend un certain temps quand même.
Et quand on voit l'addiction maintenant aux produits, avec en particulier les produits de synthèse, et les drames qu'ils suscitent, on a l'impression qu'on n'a pas de moyens, on ne peut plus rien faire.
Bah donc ce qui est nouveau, c'est que jusqu'à présent, on avait des produits, on va dire, naturels, qui avaient déjà une certaine puissance.
Cocaïne, par exemple, opioïdes.
Cocaïne, la morphine, l'héroïne, des produits naturels. Et on voit arriver ce qu'on appelle les produits de synthèse, donc l'équivalent, mais purement produit chimiquement, dont la puissance est beaucoup plus importante.
Et on voit les effets désastreux.
Fentanyl.
On est un peu démunis par rapport à...
C'est des produits extrêmement violents. C'est-à-dire qu'effectivement, ces produits qui étaient à risque d'addiction, du coup, sont de plus en plus forts, de fait, de leur production chimique. Donc on redoute effectivement des produits plus forts. C'est valable pour le cannabis. Aujourd'hui, le cannabis est beaucoup plus dosé, enfin ce qu'on appelle la substance active, le tétrohydrocannabinol, la substance active, est très très importante. Maintenant dans le cannabis, on atteint des taux de 14%, alors qu'avant c'était 3-4%, il y a une vingtaine d'années. Donc, les produits sont beaucoup plus puissants maintenant qu'ils ne l'étaient 20 ans auparavant, effectivement.
Donc la légalisation du cannabis serait plutôt une catastrophe.
Ah, c'est un autre sujet.
Moi, je ne veux pas vous pousser dans ces retranchements-là, mais si je me tourne une fois encore vers Patrick, est-ce que ces nouveaux produits auxquels on est addictif, donc les produits de synthèse, est-ce qu'on a une idée de leur incidence sur le microbiote intestinal?
Non, je n'ai pas rien lu là-dessus. On sait que pour l'alcool, pour les stimulants, pour les morphiniques, l'usage de ces drogues, entre guillemets, va modifier le microbiote. On le sait bien, c'est très bien décrit pour l'alcool, ce n'est moins pour l'eau, les autres, mais dans le papier que je vous ai donné, c'est bien repris. Donc je pense que quand on est devant quelqu'un qui a une addiction, il faudrait qu'on ait une étude du microbiote. Pour savoir si on peut commencer les thérapeutiques sociales, psychiatriques, etc., avec un espoir plus marqué de récidive, de guérison. Alors que si on a un déséquilibre initial, je pense qu'on aura... Moi, mon expérience, c'est l'alcool, puisque comme j'étais hépatologue, c'est ce que j'ai rencontré le plus. Et c'est pratiquement impossible de faire arrêter de boire à certaines personnes qui ont un... Et ces personnes-là, elles ont des cirrhoses et elles ont des dysbioses majeures. Donc je pense que ce qui va changer dans l'addictologie, moi je le souhaite, mais je sais que tu es très intéressé aussi, Benoît, c'est effectivement qu'on prenne en compte cet élément nouveau qu'on n'avait pas dans le temps et qui pourrait jouer un rôle important dans la prise en charge des malades. Ouais.
Donc ce qui veut dire en pratique alors, gardons une hygiène alimentaire, une hygiène de vie et surtout ne commençons pas à développer une addiction. Peut-être alors que dans ces conditions, on peut envisager le rôle important que pourrait jouer l'éducation, l'information vis-à-vis des plus jeunes, qui ne sont pas souvent avertis de cette relation particulière entre l'intestin et le cerveau, qui voit la récompense à travers maintenant le protoxyde d'azote, par exemple, sans voir les risques encourus. Et au moins, cette émission aurait eu l'intérêt de faire apparaître les dégâts possibles qui interviennent, non pas seulement au niveau du cerveau, mais aussi au niveau de l'intestin, avec l'établissement d'un cercle vicieux dans lequel il est bien de ne pas tomber. Oui.
Oui, j'ajouterais, tu as parlé de, effectivement de, des bonnes habitudes. Il y a des âges critiques, c'est la naissance par exemple par césarienne ou la naissance normale. Et puis l'adolescence sont des âges critiques pour le microbiote. Ça. Parce qu'il va se former, il va bien se former ou pas bien se former en fonction du contexte de stress, de nourriture, etc. Et elle, je crois que l'adolescence est une période très critique pour l'addiction.
Exactement, ouais. Tout à fait, ouais.
Et que c'est, il faut avoir une vigilance dans ces périodes du début de la vie.
Et peut-être alors pourrions-nous recommander, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, de prendre en compte cette possibilité d'enseigner, en particulier chez les adolescents, les risques que comportent toutes ces modifications au niveau de l'axe intestin-cerveau. Merci en tout cas à tous les deux. J'espère que vous avez trouvé aussi votre compte dans cette émission en tant qu'information. Nos auditrices, nos auditeurs vous en sauront gré. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.
Merci.
Merci, au revoir.
La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.